Hello à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes le lundi 27 décembre 2021 et vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce saison 3 épisode 99. Et oui, on arrive bientôt au centième. Je suis Laetitia, depuis 2800 mètres d'altitude et je suis accompagnée d'Adrien depuis le pays des babkas et des pierogies. Hello Adrien.
Bonjour à tous, ici Adrien, accompagné de l'hivernal Laetitia. Rien que de savoir où tu es, j'ai déjà froid. Le Café de l'e-commerce est le premier podcast francophone décalé et authentique sur l'actualité du e-commerce pour tous les passionnés du commerce en ligne.
Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles, que vous fassiez votre ménage ou votre jogging. Au sommaire de cette émission, des news simples et funky, de la food, des NFT, du quick commerce, en gros, toutes les news qui résument bien 2021. Breaking news, retour sur les prédictions de Benedict Evans. Et oui, souvenez-vous, c'est l'analyste britannique préféré d'Adrien. Bénédicte est-il à côté de la plaque? Vous le saurez juste avant de prendre un café bien au chaud avec Olivier Hérol, qui est fraud manager chez Backmarket. Certainement l'un des plus surprenants cafés que l'on ait pu prendre en cette fin d'année.
Et comme à chaque émission, c'est l'épisode 99 et on terminera avec du fun. On vous challengera avec des jeux autour de l'actualité de la semaine. Et cette semaine, on aura un French Connection et puis un chiffre de la semaine. Laetitia.
Adrien.
Prêt. Synchronisation des montres. Toutes les news e-commerce dont on ne parlera pas cette semaine, mais qu'il ne fallait surtout pas louper, c'est la rubrique des news simples dans un format funky.
TikTok Kitchen, c'est pas du tout une blague. Le réseau social chinois se lance dans la restauration aux États-Unis en 2022. C'est prévu pour mars 2022. Et TikTok s'apprête à lancer un nouveau service de livraison de repas à domicile sur la base des vidéos alimentaires les plus populaires. On a hâte.
Après Diesel, Nike, Adidas, Levi's se lance aussi dans les NFT.
Forever 21, souvenez-vous, je crois que c'était le début de la saison 1 ou saison 2. J'annonçais que l'enseigne américaine avait décidé de fermer quelques magasins, dont l'emblématique magasin à Paris, rue de Rivoli. Eh bien oui, les boutiques ont bien fermé, mais pour mieux en réouvrir dans le monde des métaverses, en vous proposant, vous, acteurs des métaverses, de gérer une boutique Forever 21, appelée Forever 21 Shop City.
Le livreur de boissons Col entre en redressement judiciaire. Qui n'a jamais utilisé cette application pour se faire livrer de l'alcool, le Star, le soir, quand tout est fermé? Je parle pas de moi, bien sûr.
Je l'ai jamais utilisé. Les grands magasins britanniques, Selfridges, rachetés par Central Group. Central Group, c'est le groupe thaïlandais. C'est un groupe thaïlandais et aussi racheté par Signa, qui est autrichien.
Nouvelle rubrique en cet épisode 99, c'est la rubrique des levées de fonds et des rachats de la semaine avec de l'argent dans tous les sens. Laetitia, qu'est-ce que tu avais pour nous cette semaine?
Eh bien, c'est Walden qui est en pole position pour racheter le livreur Relais Colis en 2022.
Et dans les levées de fonds et les rachats, on a également la start-up e-commerce de Headless Commerce Bolt, alors à ne pas confondre avec le concurrent d'Uber, qui est valorisé 14 milliards de dollars après une levée de fonds monstrueuse en série E. Et on est dans le segment, Laetitia, qu'on avait déjà évoqué, tu sais, ce segment du One Click Checkout avec des concurrents comme Fast, Acquire, fait par des Français aux US, et puis un membre de la communauté qui nous a lancé, qui a lancé également une application, enfin une solution qui s'appelle Just. Donc tout ça, ça évolue, on va dire, dans le même segment. Donc si on voit une solution américaine qui lève autant et qui est valorisée, c'est certainement un marché qui va continuer à grandir l'année prochaine. Donc j'ai hâte de suivre ces acteurs.
Ouais, et on fait un petit coucou à Jérémy de Just. Jérémy, on espère que bientôt toi aussi tu seras évalué à autant de milliards de dollars.
Quoi de neuf chez nous? Quoi de neuf chez nous, c'est la rubrique où on parle de nous, ce qui s'est passé chez nous ces derniers jours dans le monde de l'e-commerce et dans notre monde perso. Laetitia, quoi de neuf chez toi?
Quoi de neuf chez moi? Ça faisait un moment, Adrien, que je ne faisais que de parler des NFT. Je faisais semblant de comprendre quelque chose. La réalité, c'est que je ne comprenais pas grand-chose. Et là, je me suis dit, allez, tu vas regarder un peu comment ça se passe, ma cocotte. Et je suis tombée par hasard sur le site de Charlie Cohen, qui a fait une collaboration avec les Pokémon, bon, pour les 25 ans des Pokémon. Donc Charlie Cohen, c'est un designer britannique et qui, pour l'occasion des 25 ans, a décidé d'explorer les métaverses. Et donc je me suis rendue sur tout cet espace-là en me disant, mais il n'y a pas d'e-commerce, c'est nul. Eh bien sûr que si. En fait, vous vous baladez dans une ville virtuelle qui s'appelle Electric City. Et puis, dès que vous vous arrêtez quelque part, forcément, on vous vend quelque chose. Et puis, directement, on vous redirige sur le site de Selfridges. J'arrive jamais à le prononcer. Voilà, c'était ma première expérience virtuelle. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Et il y a du paiement aussi. Il y a du paiement. Et du paiement en ligne. Donc vraiment, tout est bien fait. Et moi, je suis pas du tout habituée de cet univers-là. Donc je me suis cru dans un jeu vidéo. Mais genre un jeu vidéo d'il y a quelques années, quoi, quand même. Mais j'ai trouvé l'expérience plutôt bien. Et c'était une de mes interrogations premières avec les NFT et le métavers. C'était de me dire comment est-ce qu'on va pouvoir y mettre du e-commerce. Alors je voyais toutes ces marques qui l'annonçaient, mais je me rendais pas bien compte comment ça pouvait se matérialiser. Bah, c'est plutôt pas mal, c'est un univers qui me fait vachement penser donc aux jeux vidéo, au manga aussi. Alors, je pense que c'est très propre chez Charlie Cohen, parce que je suis allée fouiller un peu ce qu'il faisait, et puis bien évidemment au Pokémon. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait cette semaine, et je pense que je vais m'intéresser de plus près pour la saison prochaine au monde des métavers et des NFT, parce que sinon je serais complètement à la ramasse. Et toi, Adrien?
Tu vas devenir une gameuse.
Mais en fait, je me suis dit ça, je me suis dit qu'il y avait tout un pan de ma culture générale qui était en déficit, parce que si on n'a pas de culture
générale. Entre Tetris et aujourd'hui, il y a eu des progrès, ouais.
Ben voilà, mais moi je me suis arrêtée à Super Mario, je sais pas combien, 3, 4. Seul jeu vidéo auquel je joue, c'est Just Dance avec ma fille. Non, mais je suis à la ramasse. Donc du coup, ça c'est aussi un de mes objectifs, c'est de rattraper tout ce retard, parce qu'il y a plein de choses que je comprends pas. Voilà, j'avoue mes faiblesses au micro du podcast. Et toi, Adrien, quoi de neuf chez toi cette semaine?
Bah, on a enregistré il y a quelques jours un épisode particulier, un épisode 100, et on a fait ce que j'adore faire. On a fait des prédictions et les récaps complets de l'année, de tout ce qu'on a fait, avec un classement. Bien sûr, je rigole, on a fait un épisode 100 complètement décalé. Donc, vous allez le découvrir normalement quand cet épisode 99 il sera publié. Ça devrait arriver quelques jours après. Donc on est très content, on a fait quelque chose de différent, on va pas spoiler, vous allez le découvrir, on parlera un petit peu d'e-commerce, il y aura d'e-commerce un petit peu partout, mais bon voilà, j'ai hâte, je suis curieux. Alors Lithia, t'es un petit peu, je crois, anxieuse de la publication de cet épisode, tu dis tout le monde s'en fout.
Bah oui.
Moi je me dis,
j'ai envie de te dire, ne publie pas bien. Même, j'ai envie qu'il soit caché, tu sais, un truc caché, genre les gens ils le découvrent par hasard.
Oui, en plus pour un épisode 100, on voulait faire un truc un peu différent. On teste un nouveau format, on teste quelque chose d'un petit peu différent sur la forme et sur le fond. On espérera que ça vous plaira. Soyez pas surpris sur la durée, parce que je pense que ça va être un épisode long, mais voilà. De toute façon, on explique un petit peu au début de l'épisode l'angle qu'on a pris et ce qu'on a essayé de faire. Donc j'ai hâte d'avoir les retours et de voir un petit peu comment, si ça va prendre ou pas.
Quoi de neuf chez vous, c'est la rubrique dans laquelle on lit tous vos messages et dans laquelle on répond à toutes vos questions. Adrien, je crois que nous avons eu des nouvelles notes sur Apple Podcast.
Ouais, alors on a eu commentaires, donc 5 étoiles. Déjà, il y en a eu plein, je crois que ton appel là, de détresse de fin d'année, il a fonctionné, puisqu'on a eu plusieurs notes, plusieurs 5 étoiles. Donc merci tout le monde, on a 95 notes à quelques jours de la fin de l'année, donc on pourrait toujours espérer d'avoir avant la fin de l'année 100. Bon, je pense que c'est un peu ambitieux, mais en tout cas en janvier, je pense qu'on atteindra les 100, ce qui est super cool. On a reçu 2 commentaires, en plus de toutes les notes. 5 étoiles de Michael BK, from 92. Au top. Contenu pertinent, format punchy, super duo et suffisamment de fun pour rendre le sujet très agréable à écouter. Continuez. Merci beaucoup, Michael.
Merci.
Et deuxième note, 5 étoiles. Le nom de la personne, c'est Super Uber Driver. Le titre du commentaire, Super Cliente. Et le commentaire, Excellente Cliente, la meilleure de la soirée. Et merci pour la chaîne. J'ai écouté le dernier épisode, j'ai trouvé ça passionnant. Mon client suivant aussi d'ailleurs. PS, je n'ai pas eu le temps de manger avec le client suivant. Donc que des private jokes. Laetitia, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'est pas moi en tout cas.
Non, c'est moi. J'ai fait un hold-up sur un chauffeur Uber. En fait, juste après l'enregistrement de l'épisode 100, j'ai pris un Uber pour rentrer chez moi. Et il était super sympa. Et le mec me parlait beaucoup de podcast et tout, et je lui dis mais moi j'ai un podcast, et donc direct comme d'habitude, hold up, je lui dis tu prends ton téléphone, tu mets 5 étoiles et tu verras, c'est génial. Et en fait apparemment il a écouté vraiment les épisodes, et en fait il était pressé parce qu'il avait très faim, et pourtant il était tard quand on a terminé l'enregistrement, et c'est pour ça qu'il dit qu'il a pas eu le temps de manger, parce qu'il a eu le temps de prendre un autre client et d'écouter l'épisode avec ce client là. J'ai oublié son prénom, mais en tout cas franchement c'était un chauffeur super cool, et j'aimerais bien que ce soit mon chauffeur privé tellement qu'il est cool, et en plus il
tu sais que dans Uber tu peux, il me semble que enfin tu peux le mettre en favori.
Ah
il
bon
me semble qu'il y a la possibilité.
Ah, c'est trop cool,
peut-être
ça.
Que je confonds avec une autre app, mais normalement tu peux.
Et on a discuté de fast fashion aussi, et franchement il avait un avis qui était hyper éclairé, et j'étais contente d'entendre son avis de consommateur sur la fast fashion, et c'était bien enfin de discuter avec quelqu'un qui évolue pas comme nous, tu vois, dans des grandes solutions e-commerce, et il était vraiment très cool, et t'as raison, je vais le mettre en chauffeur favori.
T'étais à deux doigts de sortir, de dégainer le mic pour commencer à enregistrer.
Ouais,
c'est ça,
je te jure,
un petit
passe passe
le mic avec mon chauffeur. tu nous avais parlé je crois que c'est la semaine dernière ou il y a quelques jours, on va dire, de la possibilité sur Spotify de noter les épisodes. Alors moi, j'utilise pas Spotify, du coup, j'ai pas pu le vérifier, mais en tout cas, je regarde un petit peu s'il y a une section commentaires et s'il y a des notes. Et pour le moment, je ne vois rien. Donc je sais pas si c'est peut-être sur l'application desktop, mais donc faites-le et puis on va regarder ça, on va suivre ça et on lira vos messages au micro.
Breaking news, les big news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi et on en parle, on en débat, le tout sans langue de bois. Et puis, cette fin d'année, Adrien va nous parler de son analyste, l'un de ses analystes préférés, qui est Benedict Evans. Alors Adrien, je crois que tu nous as même fait une reco sur Benedict Evans.
Ouais. Ouais, pour suivre sa chaîne LinkedIn. Mais tu sais, ouais, les gens que j'aime bien, je les aime et je les déteste. Enfin, tu vois, c'est toujours un petit peu. C'est comme aigre.
Tu l'as encensé il y a quelques épisodes et là, tu vas le démonter,
ah,
c'est
non,
ça
non, non, comme d'habitude, j'ai dit que c'est super intéressant, mais il y a des choses sur lesquelles je suis pas toujours d'accord, etc. Mais bon, donc oui, je l'aime bien, mais dire que je suis fan et que je me tatoue son nom, peut-être pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il a une influence. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? D'habitude, Benedict Evans, depuis des années, ses rapports, ils sont publiés en janvier-février. Donc, je sais pas pourquoi ça a été publié en décembre, j'ai pas tout suivi. Mais il y a quelques jours, il a publié un gros rapport, je crois. Et en plus, c'est très facile à lire. Quand on parle de rapport, on se dit c'est chiant, ça va être long à lire. Là, c'est 90 slides et c'est des slides très visuels avec très peu de texte, des graphes, des bullet points. Donc, ça se lit très simplement, ça peut se partager très, très vite et vous pouvez le parcourir simplement. Benedict Evans, pour ceux qui n'ont pas suivi, ça fait 20 ans qu'il est analyste sur tout ce qui va dire, on va dire, mobile, médias et technologies. Il a bossé pour des VC, pour des sociétés, pour conseiller des grands acteurs. Et puis là, il est analyste indépendant. Alors, le rapport, je l'ai parcouru. J'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, en plus, ça se lit ou ça se parcourt ou ça se scanne très rapidement. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il commence tout de suite en décrivant deux grandes tendances. C'est le Web3 et le métavers. Et quand il décrit ces tendances, il y croit pour les 10 prochaines années. Enfin, il y croit. Je ne sais pas s'il met son nom dessus, mais en tout cas, il dit ça, c'est des tendances qu'on va voir évoluer dans les 10 prochaines années. Et ce qu'il va mettre dans le Web3, c'est la finance décentralisée, le défi. Les cryptos, la blockchain, les NFT, etc. Donc tout ça, ça va entrer dans la catégorie Web3. Donc c'est la continuité des choses qu'on a vu émerger ces dernières années. Et dans le métavers, VR, AR, etc. Donc c'est des tendances qui sont réelles, qui vont continuer à se développer. Et je trouvais ça très intéressant parce qu'on se rend compte, nous, dans le café e-commerce, pourquoi est-ce que j'en parle ? Parce qu'on pourrait dire c'est quelque chose qui est assez généraliste et en fait c'est un rapport qui est repris de manière assez généraliste. Premièrement, on se rend compte que l'e-commerce, il est imprégné dans le monde dans lequel on vit, il est partout. Les Shopify, Amazon, l'analyse du retail, les habitudes de consommation e-commerce, c'est des choses qu'on retrouve dans son rapport. Donc il se veut décrire les tendances des prochaines années, ce qui est en train de se passer, et tu te rends compte que tous les sujets, enfin beaucoup de sujets qu'on évoque, ils sont sur ces slides. Donc on se rend compte de l'importance qu'a l'e-commerce et dans tout ce qui est en train de passer autour de nous. J'ai relevé 2-3 choses intéressantes. Je vais pas te faire les 80 slides ou le résumé des 80 slides. Je vous invite, vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous avez accès. En plus, j'adore parce qu'il n'y a pas besoin de formulaire, il n'y a pas ton nom, email, etc. Tu peux y accéder très simplement. Les 2-3 trucs qui m'ont fait marrer. Le premier, il compare beaucoup de choses qui tournent autour des cryptos avec le schéma, les pyramides de Ponzi. Et l'idée derrière tout ça, c'est souvent quand tu lances une coin ou tu as une initiative, tu vas avoir besoin d'early adopteurs, c'est eux qui vont surtout en bénéficier, qui vont parler autour d'eux pour pouvoir onboarder plus de personnes. Donc je trouve ça intéressant en tout cas de cette comparaison. Il y a encore plein d'opportunités pour le SaaS. On a l'impression, ou moi j'ai peut-être ce biais du fait que j'évolue dedans, de me dire que la majorité des sociétés ont basculé vers le SaaS, et en fait non, ça reste oui sur les choses front comme e-commerce, CRM, ce genre de choses, les solutions SaaS ont pris le dessus, mais il y a encore énormément de solutions ou on va dire d'infrastructure qui est encore en mainframe ou en serveur propre ou géré par les marques ou par les enseignes. Et donc il y a encore une marge de progression pour le SaaS qui est encore énorme. Beaucoup de comparaisons entre Amazon et Shopify. Donc là vous regarderez les graphes, pareil, enfin moi mon avis là-dessus c'est, je suis pas complètement convaincu de que cette comparaison elle soit pertinente. Et enfin une fragmentation encore plus importante sur l'e-commerce, et on se rend compte qu'il y a quelques années il y avait des gros acteurs qui prenaient, alors c'est toujours le cas, il y a des gros acteurs qui prennent l'ensemble de l'e-commerce, mais on a de plus en plus de très petites marques ou de petites marques qui se développent. Et donc là par rapport à Shopify, en fait en substance c'est très facile de lancer un site, il y a énormément de marques qui se lancent et ces marques ajoutées les unes aux autres et prennent une proportion en pourcentage plus importante du total e-commerce. Donc là derrière on voit les DNVB etc. Donc je trouvais ça aussi super intéressant de se voir qu'il y a une certaine égalité, ou en tout cas on rééquilibre un petit peu la segmentation du marché e-commerce. Mon analyse sur tout ça, ou en tout cas deux trois réflexions que je me suis faites sur tout ça, il y a beaucoup de choses sur lesquelles qu'il évolue pas, qu'il analyse pas, ou en tout cas il en parle pas du tout. Tout ce qui a trait autour de la Chine, la régulation, on va en parler tout à l'heure d'ailleurs sur de la régulation, parce que ça peut avoir un impact, ça a un impact très important sur tout ce qui se passe. Sustainabilité, il a pas utilisé une seule fois ce mot là et j'aurais espéré penser qu'on en voit un peu plus, qu'on le voit un petit peu plus. Alors lui, il n'est pas défenseur d'une cause. Il est juste en train de regarder qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais quand on parle, nous, au micro, comme on parle beaucoup de seconde main, de secteur et de tout ce qui est en train de se passer, j'aurais espéré au moins avoir la mention une fois. On se rend compte que l'e-commerce, il est partout. Il est sous-jacent à tous les sujets. Tu prends n'importe quel thème, NFT ou ce que tu veux, VR, AR. À un moment donné, on va parler de transactionnel. Et ce que je trouvais, c'est que peu importe les innovations technologiques, hardware ou software, ou les innovations d'usage, il y aura toujours une couche transactionnelle et demain, il y aura des nouveaux acteurs qui vont en profiter. Donc là, les fintechs, c'est le choix évident parce qu'elles vont devoir processer ces transactions et donc se mettre à jour et aller adresser ces nouveaux marchés, et elles vont plus vite que les banques traditionnelles ou que certains acteurs traditionnels. Et puis il y a des nouveaux acteurs qui vont arriver, et je lance une petite question comme ça: est-ce qu'il n'est pas temps de changer le mot e-commerce? Et je me suis allé amuser à regarder sur Google Trends l'occurrence e-commerce. Bah tu vois, c'est plutôt flat, ça a même un petit peu descendu, le avec ou sans tiret. Mais putain, ça fait 20 ans qu'on utilise ou 25 ans qu'on utilise le mot e-commerce. Est-ce que ça y est, il n'est pas le temps d'appeler ça autrement, je sais pas, digital commerce ou autre chose? J'en sais rien et je suis pas bon pour les noms, mais c'est vrai que là où on a tout rebrandé, c'est même plus de e-commerce, ça serait commerce, mais de commerce à la connotation physique. Laetitia, qu'est-ce que t'en penses de tout ça?
Ouais, du coup ça me fait sourire, Adrien, parce que hier soir quand je préparais l'émission, je me disais, mais en fait e-commerce c'est un terme hyper vieux, et est-ce qu'on fait encore du e-commerce à l'ancienne? Alors oui, comme tu parles de transactions, mais alors avec tout ce qui se passe, tu parles de finances décentralisées, de Web3, mais moi j'ai l'impression que nous, avec notre podcast Le Café de l'e-commerce, on est devenus des vieux papis, des vieux de la vieille, comme on dit si bien, et qu'en fait le mot e-commerce il englobe plus du tout ce qui est en train de se passer, et en plus ça se passe mais à une vitesse, voilà. Et je suis très étonnée que, effectivement, comme tu le dis, Bénédicte Evans ne parle pas de la Chine et de sustainability, comment est-ce qu'on dit, de commerce,
développement durable.
J'aurais pensé qu'il en aurait fait mention. Et j'ai une petite question: pourquoi la comparaison Amazon et Shopify, enfin comment est-ce qu'il la justifie?
Non, il y a très peu de texte, donc il faudrait voir comment il la présente, etc. Mais c'est comme énormément d'analyses qui comparent et qui te disent le concurrent d'Amazon c'est Shopify. Ça, c'est rien de neuf sous le soleil, puisqu'il y en a énormément qui font ces comparaisons, et ils t'expliquent que la croissance de Shopify et d'Amazon. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Le titre de sa présentation, juste pour être pour clarifier ça, c'est three steps to the future. Donc c'est les trois marches vers le futur, et il essaie d'explorer les thèmes qui vont arriver, qui vont transformer notre industrie. Donc la tech d'ici 2025 ou 2030. Donc ça a quand même sa place, tout ce qu'on est en train de se dire, mais après il essaie d'être court, de choisir les sujets qu'il va évoquer.
Et c'est tout en anglais, hein, ça rien.
Ouais, mais bon, il y a beaucoup de dessins, donc tout le monde peut comprendre.
Je comprendrai, c'est ça. Merci Adrien. Un café avec, c'est la rubrique dans laquelle on prend un café avec un ou une spécialiste qui nous présente une idée, un concept, son job, que nous n'avons pas, nous, l'habitude de traiter, Adrien ni moi-même. Et cette semaine, on prend un café assez surprenant avec Olivier Erol de Back Market. Olivier est fraud manager chez Back Market et on l'écoute. Et aujourd'hui, on passe le mic à Olivier Hérol de chez Back Market. Hello Olivier, comment vas-tu ?
Bonjour Olivier.
Salut tout le monde.
Olivier, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et puis surtout ce que tu fais ?
Bien sûr. Donc, je suis le fraud manager de Back Market. Donc en très peu de mots, je protège Back Market contre les fraudeurs.
Tu es le bouclier de Back Market.
Le Nightwatch, comme on dit chez nous.
Ouais, le super-héros au sein des équipes qui sauve. Et en fait, on ne le voit pas quand tout va bien, mais quand il y a des problèmes, il est là et il sauve les choses. Ou en tout cas, quand tu fais bien ta mission, personne ne sait que tu es là, quoi. Olivier, justement, on est ravis de t'avoir parce que ça fait un moment qu'on voulait aborder ce genre de sujet avec Laetitia au podcast et on n'a jamais trouvé vraiment un interlocuteur qui pouvait adresser ces sujets de la manière dont on le souhaitait. On voulait parler aujourd'hui avec toi de chargeback. Et pour être franc avec toi, j'ai toujours une idée très brumeuse un petit peu de ce concept. Donc, est-ce que tu peux commencer déjà par nous expliquer qu'est-ce que c'est que le chargeback et ensuite on va voir en quoi c'est important.
Oui, bien sûr. Donc, le chargeback, c'est la procédure qui va permettre à un acheteur de signaler une transaction non légitime pour récupérer les fonds. Donc, en gros, l'acheteur va passer une commande ou pas. D'ailleurs, ça peut être de la fraude. Mais en tout cas, derrière, une fois qu'il aura le montant de la commande sur son relevé de compte bancaire, il va avoir la possibilité de contacter sa banque ou la marque de sa carte bancaire pour signaler ses transactions comme non légitimes. Derrière, la banque va récupérer les fonds sur le compte du marchand pour le rendre banque titulaire de la carte en attendant que le marchand fasse appel. En quelques mots, un chargeback, c'est un signalement d'une transaction non légitime pour récupérer les fonds.
Alors Olivier, qu'est-ce que ça peut être une transaction non légitime ? Est-ce que tu as des cas, je ne sais pas moi, un produit qui n'est pas reçu, un 3D Secure qui ne s'est pas déclenché ? Je ne sais pas, je dis tout et n'importe quoi, mais quels sont les cas qui rentrent dans le cas d'un chargeback ?
Alors déjà, il y a deux types de chargeback. Il y a le chargeback fraude et le chargeback commercial. Le chargeback fraude, c'est quand le titulaire de la carte ne reconnaît pas une transaction, quand il signale la transaction comme frauduleuse. Ça, c'est un chargeback fraude. Le chargeback commercial, c'est les litiges qui peuvent exister entre un acheteur et son marchand. Comme tu le disais, ça peut être un non-delivery, donc un produit non livré. Ça peut être un produit livré endommagé, le mauvais produit livré. Un litige sur le prix du produit. Donc c'est en gros tous les litiges entre un marchand et son acheteur. Il faut bien faire la différence entre les deux. Un chargeback fraude, typiquement c'est une transaction qui n'a pas été effectuée par l'acheteur. Donc là, presque automatiquement, la banque sans appel va rendre l'argent au titulaire de la carte et va sanctionner le marchand, parce que la banque va considérer que le marchand n'a pas fait son travail de proposer une plateforme sécurisée aux acheteurs. Un chargeback commercial, c'est plus compliqué. Donc, la procédure est la même. Récupération des fonds sur le compte du marchand et la possibilité au marchand de faire appel. Derrière, on a aussi les petits malins qui vont déclarer une transaction comme frauduleuse. Donc, vont faire un chargeback sur ces transactions, alors qu'à la base, cette transaction est légitime. Et là, le marchand aura la possibilité de faire appel et de démontrer par divers moyens que cette transaction était en réalité légitime.
Olivier, pardon de te couper, dans un des cas, j'ai l'impression que le remboursement, il se fait automatiquement. Et dans un autre cas, le commerçant, il doit venir apporter des preuves et expliquer ce qui s'est passé, c'est ça ?
C'est un peu ça, mais encore une fois, c'est le chargeback fraud est un peu particulier parce que le marchand aura toujours la possibilité de faire appel et de contrer en fait l'argument de l'acheteur en disant que non, cette transaction n'est pas illégitime, n'est pas frauduleuse. En voici les preuves. Mais aujourd'hui, en Europe en tout cas, on a la deuxième directive européenne sur les services de paiement, la DSP2, en fait, qui oblige les marchands à proposer un paiement avec une authentification forte. Et dans ces cas-là, le marchand, quand il propose cette authentification forte, est protégé en cas de chargeback fraude. Et s'il y a un chargeback fraude derrière, le marchand n'a pas à rembourser les frais du chargeback. Et dans tous les autres cas, effectivement, automatiquement, l'argent est récupéré du compte du marchand en attendant le dossier de défense du marchand pour récupérer l'NFT.
Dans la sur 100 chargebacks commerciaux ou sur 10, combien sont légitimes et vous devez rembourser et combien non, en fait, il n'y a pas de remboursement qui est nécessaire. C'est 50-50 ou c'est 90% du temps, en fait, vous êtes dans vos droits et c'est des magouilles qui essaient de se faire ou de la mauvaise foi?
Dans 50% des cas, c'est de la mauvaise foi. Donc, okay. Dans 50% des cas, c'est des acheteurs qui abusent de la policy pour ouvrir un chargeback, pour garder le produit et pour garder les fonds. Et donc, nous, derrière, on a tout un travail pour démontrer à la banque que cette transaction, c'est à la base très bien passé. Donc, si vous me demandez quelle information on envoie à la banque pour défendre un chargeback et pour récupérer les fonds, c'est simple. C'est les tracking numbers, donc les preuves que la marchandise a bien été envoyée. C'est les conversations qu'on peut avoir sur notre plateforme. C'est-à-dire que si on a un acheteur qui déclare une commande non reçue, alors que dans la conversation, on voit clairement que l'acheteur se plaint d'autre chose, de la couleur d'un téléphone ou de tout un autre problème, c'est des ressources qu'on va avoir pour démontrer à la banque qu'en fait, c'est un chargeback signalé de mauvaise foi.
Et Olivier, la plupart du temps, le vendeur lambda, il va dire qu'il n'a pas reçu le colis, c'est ça? C'est l'excuse que tu retrouves le plus souvent?
Ouais, l'acheteur. C'est l'acheteur,
effectivement. L'acheteur, pardon, ouais.
L'acheteur qui va effectivement dire qu'il n'a pas reçu la marchandise. Et comme on sait que là, surtout après le Covid et les mesures barrières où on ne demande plus forcément de signature à la livraison, on a eu une augmentation des chargebacks liés justement à cette raison de la non-deliver.
Et dans le cas où personne ne peut savoir, bah dans ce cas-là, vous remboursez le client, c'est ça? Parce que parfois, bah, il n'y a pas eu de chat, il n'y a rien. Et puis, tu sais, tu as un tracking number de la poste, mais tu ne peux rien savoir, il n'y a pas eu de signature.
Ouais, bah, si on n'arrive pas à persuader la banque, effectivement, on perd le chargeback et indirectement, on rembourse l'acheteur. Parce que quand on perd un chargeback, on accepte, entre guillemets, de perdre les fonds. Quand on perd les fonds, ça se résulte en un remboursement de l'acheteur.
Olivier, est-ce que vous ne pâtissez pas de la politique d'Amazon, donc grande marketplace aussi, qui pour le coup vérifie pas grand-chose, suffit d'appeler et dire « Oh, j'ai pas reçu ». Ah bon, d'accord, bon, bah, je vous rembourse. Qui est quand même, j'ai pas envie de dire qu'elle est laxiste, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il procède à beaucoup moins de vérifications. Moi, ça m'est déjà arrivé.
Et j'étais, ça crée un nouveau standard.
C'est très
quoi,
bonne ouais. foi. Et oui, voilà, c'est un nouveau standard. Et du coup, vous qui êtes plus petit, mais qui êtes aussi une place de marché, j'imagine que le client doit avoir le réflexe Amazon. Et bah, si, je fais ma réclamation, je veux mon chargeback et c'est comme ça et c'est pas autrement.
Alors oui et non. Alors oui, on en pâtit parce qu'on doit s'adapter. On a effectivement des clients qui nous disent « Écoutez, le customer care chez Amazon se passe beaucoup mieux que chez vous, on n'est pas content, donc on en pâtit. » Non, c'est parce que c'est plus compliqué que ça. Amazon a, comme d'autres marketplaces, a une protection des marchands qui fait que les marchands sont protégés contre des chargebacks uniquement s'ils respectent certains requirements. C'est-à-dire que si le marchand, prend quelques exemples à la volée, si le marchand ne répond pas à son client sous 24 heures, si le marchand n'envoie pas sa marchandise sous les 48 heures, si le marchand n'envoie pas la commande à l'adresse indiquée lors du paiement, là, systématiquement, le marchand est sanctionné, on rembourse l'acheteur. Là, l'acheteur ne le voit pas tout ça. Donc Amazon, avant de rembourser un acheteur, vérifie que son marchand, dans le cas d'une marketplace, que leur marchand a bien respecté toute leur politique de seller protection, justement. Si ce n'est pas le cas, Amazon ne se prend pas la tête, rembourse l'acheteur et impacte le montant du chargeback ou de la dispute au marchand. Nous, c'est exactement la même chose. Donc, on a une politique. Donc, avant de défendre un chargeback, on va demander au marchand de respecter, enfin, avant une transaction, on va demander au marchand de respecter scrupuleusement notre politique de vente, les conditions générales de vente. Et si on a un chargeback derrière et qu'on se rend compte que le marchand n'a pas respecté ne serait-ce qu'un requirements, on va impacter le chargeback au marché. Par contre, si le marchand respecte tout et qu'on n'a pas assez de ressources pour défendre le chargeback, là, effectivement, on va couvrir le marchand, on va rembourser l'acheteur. Mais en tout cas, l'acheteur sera sur blacklist, il ne pourra plus racheter chez nous. Donc, on peut faire un seul chargeback chez Back Market. Après, t'es blacklisté.
Blacklisté chez Back Market, super.
Et Olivier, moi, l'idée que j'avais, c'est que ça reste
infiniment petit, tu vois, c'est cas, c'est des cas très très particuliers. Vous avez un volume monstrueux, enfin énorme de commandes qui sont faites par mois ou par année. Donc je me dis c'est pas si stratégique que ça. Et avant le call, tu me disais que vous étiez quatre dans votre équipe. Alors faites pas que du chargeback, mais c'est plus large. En quoi c'est quelque chose qui est important pour Back Market, mais en fait finalement pour n'importe quelle marque.
Alors la première raison c'est qu'on ne veut pas créer d'appel d'air. C'est-à-dire que si les fraudeurs ou les petits margoulins, comme on les appelle chez nous, se rendent compte qu'on n'a pas de vrai chargeback management chez Back Market et qu'ils voient qu'effectivement, qu'ils peuvent ouvrir des chargebacks sans que derrière, on les défende, il y aura un appel d'air. Il faut savoir que tout tourne sur Internet, en particulier sur le dark web, dans les discussions entre ces,
ah ouais,
ces fraudeurs.
Genre, il y a des discussions. Attention, chez Back Market, il y a une faille, vous pouvez y aller, les gars, chargeback à gogo, quoi.
Donc, ils vont dire, attention, alors, ici, j'ai fait un chargeback, j'ai été remboursé, et en plus, j'ai refait un chargeback une semaine après, j'ai encore été remboursé. Le chargeback management chez Back Market, c'est pas terrible. Bon, c'est pas le cas. Hein. Je simule une discussion entre fraudeurs. Bon, déjà, contre ces personnes, on est obligé d'avoir un vrai chargeback management pour leur montrer que derrière, ça bosse. Parce que comme ça, comme je le disais, tu fais un chargeback une fois chez Back Market, déjà, on va le défendre en sûr parce qu'on est sur une politique de 100% des chargebacks défendus. Et puis derrière, même si on perd le chargeback, tu ne pourras plus acheter chez Back Market. Ensuite, il y a l'image. Donc, on sait qu'une personne sur trois dans le e-commerce qu'un problème de paiement sur un site ne revient pas. Et donc, une personne qui fait une transaction frauduleuse ou qui est victime d'une transaction frauduleuse chez Back Market, si on ne traite pas ce cas efficacement, on ne reverra plus la victime, on ne reverra pas la victime sur le site. Une personne, je prends un exemple, qui est victime d'une fraude, disons qu'un fraudeur a utilisé la carte d'une personne lambda sur Back Market. La personne qui est victime va voir sur son relevé de compte bancaire la mention Back Market. Donc, même si la personne n'a jamais été sur Back Market, ne connaît pas Back Market, elle aura d'emblée une image négative de la société. Et nous, on se doit de traiter tous ces cas-là, les transactions frauduleuses, les chargebacks. Et puis, trois, même si on est quatre, on est efficace, on défend tous les chargebacks et nous, on a un bon taux de recouvrement chez Back Market pour la partie chargeback. On récupère aux alentours de 40% des chargebacks reçus. Donc, c'est pas si infime que ça, en fait.
Ouais, c'est assez important quand même. Hein.
Ouais.
Olivier, avant qu'on se dirige vers la conclusion, j'ai deux questions. Le chargeback le plus original que tu aies vu dans toute ta carrière. Et j'ai oublié la deuxième question, donc on va rester sur celle-ci.
Yes. Alors, on a eu un chargeback.
Et puis, quel chargeback on peut utiliser qui n'est pas encore fixé, hein? C'est ça que Tia voulait demander, tu vois.
Ah, ma deuxième question est revenue.
Elle voulait s'acheter un nouvel iPhone.
Le chargeback est exceptionnel. Je travaillais à Etsy à l'époque. On avait eu un chargeback pour non-delivery. Donc, un acheteur qui disait qu'il avait commandé un chapeau, mais qui ne l'avait jamais reçu. Et donc, nous, on investigue et on trouve sa page Facebook. Et une photo postée en public avec le fameux chapeau que tu peux acheter sur la plateforme. Donc j'avais juste besoin de cette photo pour gagner le chargeback, je le savais. Bon, j'ai été plus pro, j'ai rempli dans les règles de l'art et effectivement on a récupéré les fonds.
Mais c'est un travail de détective que tu as fait là, c'est ouf. Est-ce que tu as le droit déjà?
Oui, c'est public.
Ah, c'est public, ok.
C'est les photos publiées en public. De toute façon, on n'a pas les moyens pour regarder ce qui est privé. Mais oui, on regarde tout, hein. Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn.
Ah ouais.
Pour l'exemple, on a beaucoup de... On a des réquisitions de la part de la gendarmerie ou de la police. Et on voit clairement qu'ils n'ont pas les ressources, pas les connaissances, ils n'ont pas l'expérience, justement, pour aller exploiter ces fraudeurs. Donc, on n'investit pas encore beaucoup au niveau, j'allais dire, de l'État pour contrer la fraude.
Il devrait t'embaucher, Olivier. Je pense que tu as toutes les ressources pour monter en service. Ma deuxième question est revenue. Du coup, qu'est-ce que tu fais pour prémunir? Est-ce que toi aussi, tu vas sur le dark web et tu regardes ce qui se passe et tu dis, oh là là, là les gars, il se passe des trucs, attention, on devrait plus se protéger parce que là, on est dans l'œil du cyclone. Est-ce que c'est une de tes pratiques, je ne sais pas, pour faire ta veille et aussi pour, pour protéger ton travail? Enfin non, puisque ton travail, justement, c'est de faire ça, mais...
C'est dans nos projets. Effectivement, on recrute une personne l'année prochaine qui va entre autres se promener sur le dark web pour aller voir ce qui se dit sur nous.
Est-ce que je peux postuler? Ça a l'air trop bien comme travail.
Tu peux.
Attention, Olivier, Laetitia risque d'être un agent double. Tu vois, elle va te donner une partie des infos, mais d'autres trucs, elle va l'utiliser pour elle. Ouais.
Mais effectivement, ouais, c'est dans nos projets. On fait déjà appel à des professionnels pour explorer. Il n'y a pas plus tard qu'il y a deux semaines, j'étais avec des professionnels pour voir ce qui se faisait. Donc effectivement, on a des acteurs qui sont sur le dark web et qui s'infiltrent, hein, qui discutent avec des acteurs de l'eau.
J'adore.
Pour un petit peu quadriller un petit peu ce monde du darknet qui est particulier.
Olivier, merci. Si on a envie d'en savoir un peu plus et de postuler pour ce magnifique job d'agent double, comment est-ce qu'on fait?
Déjà LinkedIn, le classique. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn si vous voulez échanger sur le sujet. Moi, je suis partant. Surtout qu'on a beaucoup à apprendre. La fraude, ça évolue beaucoup. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, on ne sait plus demain. Donc, ouais, je suis ouvert à toute discussion sur LinkedIn.
Et Olivier, tu as une page Medium aussi?
Justement, j'ai aussi une page Medium où je m'amuse à écrire des articles sur la fraude. J'ai écrit beaucoup d'articles. 4, très exactement.
Oui, mais tu sais, Olivier, tu dis ça, t'es ironique, mais c'est comme ça qu'on t'a trouvé. Donc finalement, la quantité, on s'en fout, parce que la qualité
était
là.
C'est la qualité qui compte.
Le dernier que t'as trouvé était super. Je l'ai dévoré, je t'ai contacté, je me suis dit, ce serait top de t'avoir. Donc vraiment, félicitations. Tu vois, il y en a qui sont là depuis des années et puis on les voit toujours pas. Donc je suis sûr que ça va
fait
bien
plaisir.
Évoluer.
Bah, n'hésitez pas à aller sur le blog Medium. Les derniers sujets que j'ai évoqués, c'était les chargebacks, il y a eu le dropshipping.
Très intéressant, celui sur le dropshipping. Je crois que c'est mon préféré.
Super. Bah, c'est mon préféré aussi.
Fais gaffe, Olivier, parce que Laetitia prépare une pyramide de Ponzi en dropshipping. C'est dangereux, là. Elle est en train de se documenter, de récupérer tous les trucs. Elle fait la taupe, mais pas dans le dark web, sur tes sites, pour savoir qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse pour bypasser le système. En tout cas, Olivier, on mettra tous ces liens directement en commentaire, donc ça va être très facile. On te dit à très bientôt. Il y a tellement de sujets, donc je suis certain qu'on sera amené à rééchanger au micro. Et puis, on te souhaite une bonne continuation.
Merci à vous.
Merci, Olivier. Le café d'or du mois. Le café d'or, c'est la rubrique où on dessert une récompense à un acteur, une enseigne, une entreprise, une personnalité qui nous a fait réagir de manière très positive pendant le podcast Le Café de l'e-commerce. Et ce mois-ci, nous décernons un café d'or du mois à Adrien.
Eh bien, écoute, un acteur, je ne vais pas tout de suite, on va le tourner un peu en jeu, un acteur qu'on aime ou pas la société, bon, en l'occurrence, je l'aime bien, moi, la société, mais il est indéniable qu'ils ont fait l'actualité il y a quelques semaines, via un rachat dans le domaine du métavers. Ils ont racheté une boîte qui s'appelle Artefact. Moins sur ce rachat qui n'avait pas des montants astronomiques, d'ailleurs, ça n'a pas été, ils n'ont pas expliqué à combien ils l'ont acheté. J'ai trouvé que l'impact que ça a eu sur les médias, ça a encore, à l'instar un peu d'un Meta, d'un Facebook qui va t'expliquer que c'est leur nouvelle stratégie, j'ai trouvé que ça avait été repris partout, dans beaucoup de médias généralistes. Et en ce sens, je trouvais que c'était intéressant de leur décerner ce café d'or du mois. Donc, on parle de l'enseigne Nike, parce qu'ils ont beaucoup. Ça, je n'ai pas envie de dire évangéliser parce que je ne sais pas s'il y en a besoin, mais en tout cas, ils ont réussi à populariser ou à donner un coup de projecteur vers c'est quoi le métavers, qu'est-ce que fait Artefact, les NFT, et en ce sens, j'ai trouvé ça super, assez intéressant et puis positif pour le marché, parce que tout ce qui va vers l'éducation et vers un petit peu expliquer ce qui est en train de se passer, je trouve ça positif. Donc toi, Etista, t'es plutôt en phase avec ce choix.
Bah, Nike précurseur NFT Metaverse. J'ai bien aimé aussi le rachat qui a été. Ils n'ont pas fait grande mention de ça, mais en revanche, comme tu dis, ça a été bien repris. Et puis surtout, moi, j'ai l'impression que depuis que Nike a fait son annonce, on n'arrête pas de voir plein d'acteurs qui se lancent très très vite dans le Metaverse. Donc ouais, t'as peut-être raison. Ils démocratisent très certainement l'entrée e-commerce / Metaverse / NFT. Donc bravo Nike. Si vous nous écoutez, les gars, bravo. Reco micro. Au micro, on fait notre reco. Écoutez-la illico presto. Retrouvez toutes les recos sur la page Notion du podcast Le Café d'e-commerce en lien dans la description. Adrien, quelle est ta dernière reco de l'année?
C'est une recro. c'est une recro tellement forte que on va la filer à un crocodile. Non, mais là, bon, la recro de la semaine, c'est une newsletter. Ben, je veux prendre le contre-pied un petit peu de toute cette année et puis toutes les fois où je me moque de toi. Enfin, je sais pas si je me moque, mais en tout cas, je souris sur toutes les newsletters que tu reçois. Donc, pareil, je reçois peut-être, je suis inscrit à peut-être moins de 5 newsletters. Donc, c'est pour te dire, comment je suis pas fan nécessairement des newsletters. Mais celle-ci, en l'occurrence, je suis étonné d'avoir pas fait une recro là-dessus déjà depuis le début du podcast. Enfin, depuis qu'on a ce podcast. Et en fait, donc, cette recommandation, c'est une newsletter qui s'appelle Retail Chronicles, qui est écrite en anglais. Derrière, c'est le fonds d'investissement français Spring Invest. Donc, c'est écrit par des Français et c'est en anglais. Et c'est une newsletter internationale. De par le nom Retail Chronicles, on peut comprendre de quoi il s'agit. C'est les innovations du retail, de l'e-commerce. Le fonds derrière Spring Invest, c'est géré par quelqu'un qu'on connaît bien, parce que c'est Laurent Foiry qui était passé au micro il y a quelques mois. La newsletter, elle est très qualitative. Alors, je suis moins expert que toi sur les newsletters. Peut-être qu'il faut juste que je me réveille, que je me rende compte que toutes les newsletters sont comme ça, mais je pense pas. Je la trouve extrêmement qualitative, très simple à lire. Et le seul, l'inconvénient principal, c'est qu'elle n'est pas assez régulière. Elle est tellement canon, tellement intéressante. J'aurais bien aimé avoir plus de régularité, mais à la limite, si tu es peu régulier, mais tu arrives avec un ton intéressant et bien amené, ça me va très bien. Et je vais juste rajouter une dernière chose sur la raison pour laquelle j'aime bien, c'est qu'il y a des prises de position. Alors, encore une fois, je ne sais pas si newsletter c'est commun ou pas, mais ce n'est pas juste rassembler des sources et te les envoyer, et ce n'est pas juste décrypter des choses, mais c'est poser des questions, amener des éléments de réponse et prendre position de manière simple. Et j'ai beaucoup aimé le ton des questions-réponses. Dans la dernière newsletter, pourquoi j'en ai parlé particulièrement? Parce que début décembre, ils ont parlé de deux sujets qui m'intéressent énormément, les marketplaces et le quick commerce. Donc, je vous laisse découvrir ça. Ils ne font pas juste expliquer c'est quoi que les marketplaces et qu'est-ce que le quick commerce, parce que ça, on s'en fout. Tu vas sur Internet, tu as la réponse en 5 secondes. Et ils répondent notamment à une question. Alicia, si tu veux la réponse, je t'inviterai à aller voir la newsletter pour la réponse. C'est, il y a déjà des modèles de quick commerce avec Uber Eats et Deliveroo sur la bouffe. Pourquoi le modèle général de quick commerce devrait plus performer que ces modèles dans la nourriture, en quoi il est plus vertueux. Donc, si vous voulez savoir des éléments de réponse, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, en quoi c'est différent des Uber Eats et des Deliveroo, je vous invite à regarder, à lire la dernière édition de la newsletter qui est gratuite. Vous retrouvez le lien et vous pouvez même la consulter sans vous inscrire, sans donner d'email.
Bah, dis donc,
Laetitia, quel est ta reco de la semaine?
Adrien, pour ta première reco newsletter, tu es très prolixe. Hein. Ça fait plaisir.
Non, je crois pas, je suis pas sûr que ce soit ma première newsletter. Je crois que j'en ai fait une ou deux autres. Ces deux dernières années. Laetitia, tu termines avec une newsletter aussi finir l'année?
Je termine avec un article. En fait, cette semaine, je vous recommande un article qui a été rédigé par Claude Flair. Est-ce que tu connais Claude Flair, Adrien?
Très très bien, Laetitia.
C'est un éditeur américain qui fait du cloud, machin. Donc au début, je me dis, non, j'ai pas envie de lire, ça a l'air pourri. Mais en gros, il nous explique que TikTok génère plus de trafic que tous les services Google réunis. Donc c'est énorme. En gros, TikTok est passé de la 7e place en 2020 à la 1ère place. Maintenant, les requêtes ne se font plus principalement sur Google, mais sur TikTok. Donc je suis allée voir, c'est hyper intéressant. Et au-delà de cette news, Claude Fer, c'est un blog hyper intéressant avec pas mal d'analyses sur le monde des réseaux sociaux, entre autres, mais pas que. Donc voilà, je vous recommande cet article qui se lit hyper rapidement. C'est en anglais, il y a des dessins, comme dirait Adrien, donc c'est facilement compréhensible. Compréhensible.
Même moi, je pourrais comprendre. Super. Merci beaucoup, Laetitia. Le panier surprise, c'est la rubrique de fin, celle où on se détend et on s'amuse. Pour ce 99, on va tous les deux être maîtres du jeu à tour de rôle et on va s'amuser autour des sujets du digital. N'hésitez pas de votre côté à vous prendre au jeu et à participer également. Laetitia, tu nous as préparé deux French Connection et puis moi, j'ai un chiffre de la semaine. Alors, en French Connection, tu nous rappelles la règle du jeu et
je vous dis soit des noms de sociétés, des noms de personnalités et vous essayez de trouver le point commun entre tout ce que je viens de vous dire. Allez, Amazon, Meta.
Ok, suivant.
Pinterest, Twitter, T-Mobile.
C'est les noms de domaine, non? Non, les sites internet, enfin, les popularités des sites, comme tu viens de parler, non?
Ah non, T-Mobile. Ça aurait pu. T-Mobile, TikTok.
Ça commence par un T? Non, même pas. Écoute, j'ai aucune idée.
Eh bien, c'est « Je ne viendrai pas cette année encore au CES ». Alors, tu connais le CES, c'est le Consumer Electronics Show qui a lieu à Las Vegas tous les ans en janvier. Cette année, ça a lieu entre le 5 et le 8 janvier prochain. Et puis, hein, ces acteurs, qui sont quand même pas des moindres, ont annulé leur visite, enfin, leur venue physique lors du CES. Et je pense que bah, d'autres vont tomber. Je crois que Samsung a dit « peut-être qu'on va annuler ». Donc voilà, ça m'a bien fait rire parce que je me suis dit « ah non, ça me fait pas rire en réalité parce que c'est un peu compliqué quand on organise des salons, mais ce sont des grands noms et que ces gens-là ne décident de ne pas prendre le moindre risque pour un événement d'envergure comme ça, et ben c'est un signal assez important de ce que nous vivons. Voilà.
Les règles changent tous les jours, c'est hyper périlleux de faire des plans sur la comète. Et je sais que même pour les Français, les délégations qui veulent aller là-bas, je ne sais pas si ça va le faire. Du coup, c'est un peu triste parce qu'il y a encore 2 mois, tout était on track et ils devaient se dire « ok, ça devait être booké ». Et puis là, les annulations, et puis ça fait effet domino. On a connu ça dans l'année dernière avec les événements e-commerce. Quoi. Quand il y en a un qui commence à annuler, les autres commencent. Et puis après, ça fait c'est effet de la communication domino. De merde parce que tout le monde commence à dire « on n'y va pas », etc. Et ceux qui y vont, ils se disent « bah ouais, mais il y aura moins de monde », etc. Donc c'est un peu compliqué. On plaint les responsables marketing, notamment de ces boîtes-là. Laetitia, quel est ton deuxième ?
Mon deuxième, eh bien, pareil, je fais encore un French Connection. Blogger, Analytics, Alert, Books, Agenda, Trends.
Ah, je sais. Attends, j'aurais dû le faire dès le début. Franchement, oui. J'aurais pu le trouver.
Si toi, tu ne sais pas ça.
Service Google.
Bah oui, alors ça, ce sont les services Google gratuits. Il y en a 25 qui sont proposés par Google. Et effectivement, si tu ne savais pas, il y a Translate aussi, il y a Mail, My Business, Console, YouTube, Actualité. Il y en a plein d'autres. Et voilà. Et en plus, je me souviens qu'une fois, lors d'un entretien, on m'avait demandé de citer l'ensemble des produits Google. Et il devait m'en manquer peut-être, peut-être 10. Et j'étais trop vénère. Et je me suis dit, mais il faut les apprendre par cœur, c'est hyper important. Parce qu'il y a des gratuits, il y a des payants aussi, tu vois, t'as les payants Google Éducation, Google machin, enfin bon bref. Et c'est fou parce que si un jour vous vous intéressez à ça, parce que vous avez rien à faire de votre vie comme moi, vous allez voir, mais les produits Google, il y en a vraiment énormément.
Et comme tu le dis, ils sont gratuits, il y a des alternatives bien souvent open source que tu peux utiliser par toi-même, et en fait tu te rends compte qu'il y a énormément de frais, enfin d'hébergement, de gestion, etc. Donc on a énormément, on s'est habitué, notre génération et puis les suivantes sont habituées à avoir des services hyper qualitatifs en termes d'UX, de valeur apportée, etc. De mon côté, j'ai un chiffre de la semaine, 93.
Bah, Noisy-le-Grand.
Non, je te donne les alternatives. Voilà, 93.
Ici, 9-3.
Ok, donc tu as trois propositions. Le taux d'adoption de PayPal sur les sites e-commerce en Italie, le pourcentage du nombre de personnes qui ont acheté en ligne ces 3 derniers mois en France, et le pourcentage des ventes e-commerce versus le total du groupe L'Oréal. Bon, on peut simplifier en disant le pourcentage des ventes e-commerce du groupe L'Oréal.
C'était quoi le deuxième ?
Pourcentage du nombre de personnes qui ont acheté en ligne ces 3 derniers mois en France.
C'est énorme si c'est ça. Et PayPal en Italie, pourquoi pas, avec du paiement en plusieurs fois, PayPal en Italie, ça pourrait le faire. Je dis PayPal. Eh bien, ce n'est pas ça, c'est L'Oréal, oui, c'est mon dernier mot.
Alors écoute, c'est une bonne réponse et on se rend compte, donc c'est un rapport, je crois que c'est PayPal qui a publié ça, enfin je me souviens plus où j'ai trouvé l'article, mais c'est sourcé pour le coup. Et tu as effectivement en Italie 93%, c'est énorme, ils sont très très forts sur l'Europe de l'Ouest, donc notamment en France aussi, le pourcentage du taux d'adoption de PayPal, il est vraiment hyper important et j'ai trouvé ça vraiment 93%, un chiffre très 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 important. Le nombre de personnes qui ont acheté en ligne ces 3 derniers mois en France, on est à 65%, et au UK ils sont à 80%. Ça aussi, 80% des Anglais ont acheté en ligne ces 3 derniers mois. Et le pourcentage des ventes e-commerce du groupe L'Oréal, on est à 28%. Ils mènent aussi la danse par rapport à beaucoup d'autres acteurs. Donc, c'est 28%, c'est beaucoup. Mais 93%, effectivement, c'était pas réaliste. Écoute, félicitations, Laetitia. Tu termines super bien cette année.
Bah ouais, merci Adrien. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir partagé avec nous cet avant-dernier épisode de l'année. Pour retrouver les références de cet épisode, rendez-vous dans les notes de l'émission ou sur le site lecafédelecommerce.fr. D'ailleurs, si vous y faites un petit tour, vous allez remarquer quelques petits changements. Si vous êtes sur Apple Podcast, laissez-nous 5 étoiles. Vite, Adrien nous a dit qu'on était à 95 commentaires. Il nous en faudrait 5 plus et je vous assure que je serai la plus heureuse.
Demandez aussi à vos chauffeurs Uber et taxi, etc. de mettre 5 étoiles. Apparemment, c'est la nouvelle grosse hacking technique de Laetitia. Bon, merci à tous pour l'écoute. À très bientôt. Et puis, suivez-nous partout sur les réseaux sociaux. Vous avez les liens. À très bientôt, tout le monde.
Merci.
Ciao, ciao.
Merci. Ciao, ciao.
J'oublie tout, ça s'arrête là. Je vous laisserai tranquille. Je ne vous poursuivrai pas. Mais si vous la gardez, je vous chercherai. Je vous trouverai. Et je vous tuerai.